On y va, c'est parti. Bienvenue à ce nouveau café littéraire hein, dont le titre principal, hein, Lire un conte aux enfants, dissimule les tréfonds d'un sous-titre plus inquiétant ou plus attirant, c'est selon. Pourquoi les parents aiment raconter des histoires abominables. Donc, plutôt qu'un quelconque sadisme parental, on va peut-être essayer de se demander pourquoi les enfants aiment ça, hein, aiment tant se raconter des horreurs, hein, et en demandent et en redemandent. On va explorer ces relations entre le conte et la peur, et le désir de peur, avec trois invités, auteurs et ou spécialistes des contes et de la lecture auprès du jeune public. Donc, je vais faire ça en ordre alphabétique pour terminer par Chantal. Marie-Charlotte Delmas, tout d'abord, est auteur pour la jeunesse. Elle a écrit un certain nombre de romans fantastiques chez Syros qui ne sont plus facilement disponibles, mais pourraient être dont on espère qu'ils seront réédités. Et grande spécialiste des contes et légendes, des croyances populaires auxquelles elle a consacré de nombreuses anthologies, en particulier Le Grand Légendaire de France en trois volumes et le récent Légendaire des Dragons que vous avez devant vous et que nous avons sélectionné pour le prix spécial du jury Imaginal. Elle dirige la médiathèque de Bagneux, donc voilà pour son rapport à la lecture au public, donc Bagneux dans les Hauts-de-Seine, où elle anime depuis 2008 le festival Zone Franche. Voilà. Elle couvre assez bien le domaine. Victor Dixen est l'auteur d'un cycle qui va comprendre quatre volumes, et pour l'instant donc trois sont parus, et le surtitre d'ensemble c'est le cas de Jack Spark, hein, du nom de son héros, qui découvre, hein, il a déjà un certain nombre de spécificités au départ, hein. Il est extrêmement allergique au sel, il est complètement insomniaque, il réagit très mal à la lumière du soleil. Vous voyez que c'est le cas de Victor lui aussi.
Bon, lui il fait genre.
Cette mystérieuse personnalité est parmi nous, hein, et donc on constate qu'il est en fait charmant et que ça n'est pas un vampire.
Scoop, le prince charmant n'est pas un vampire.
Mais lui, si, Victor.
Et donc Jack Spark, lui, se découvre une identité qui explique tout ça. Hein. Il est un fée, F-E, c'est-à-dire une de ces créatures qu'on pensait être des héros de contes, de mythes, ou les créatures merveilleuses des contes et légendes, et qui s'avèrent en fait de terrifiants personnages venus d'un autre monde pour se nourrir de l'énergie, notamment des enfants et des adolescents, hein, dans un programme. Voilà. Ça fait peur, hein, revisite, hein, le personnage, le personnel de la tradition merveilleuse dans un sens, en tout cas dans le premier volume, très clairement gothique, hein, et ensuite ça s'oriente vers le thriller urbain, puis l'ASF post-apocalyptique dans le troisième volume qui s'appelle Hiver nucléaire.
Parfait.
C'est ça. Enfin, donc, je vous présente Chantal Robillard, hein, qui est linguiste de formation, qui a elle aussi longtemps fréquenté le milieu des bibliothèques, à titre divers, puisqu'elle a été bibliothécaire elle-même, hein, à plusieurs endroits, au Centre Pompidou, à Colmar, à Strasbourg, et ensuite conseillère pour le livre et la lecture dans les DRAC d'Alsace et de Provence. Grande connaisseuse de la littérature enfantine, hein, puisqu'elle a été critique pour La Joie par les livres, enseignante.
Au siècle dernier. Au siècle dernier.
Oui, 75-80. Elle a enseigné la littérature jeunesse aux futures bibliothèques, aux futures bibliothécaires d'Alsace et de Lorraine. Et tu tiens toujours la rubrique.
Formule.
Oui, oui, littérature de jeunesse à contrainte dans la revue Formule. Puisque, donc, en effet, ce que fait Chantal Revillard, c'est de la littérature à contrainte ou sous contrainte, sous influence directe du groupe qui s'appelle Loulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, qui applique un certain nombre de formules souvent mathématiques, à ses méthodes d'écriture, et qui produit des textes à partir d'un certain nombre de contraintes, en s'imposant un certain nombre de contraintes et en pensant que la contrainte est productive. Et effectivement, c'est souvent le cas. Et donc, Chantal Robillard applique les principes de Loulipo au conte. Et donc elle écrit des, ce qu'elle appelle des romans par nouvelle qui partent d'un conte et qui en inventent un certain nombre de variantes à la façon de jeux presque expérimentaux sur ce que peut produire un même conte. Donc elle a fait subir ce traitement ludique et très intelligent, très virtuose à la fois à Blanche-Neige, les sept formes de Blanche-Neige, donc c'est la fin de Blanche-Neige, elle se réveille, et là, qu'est-ce qu'elle trouve devant elle? La Fontaine aux Fées, c'est sûr, donc essentiellement l'effet de Perrault, et Hôpital Cendrillon, donc sur Cendrillon. Et comme que ça n'est pas forcément facile de se faire une idée de ce que fait Chantal, juste avec ce que je viens de vous dire, elle va nous lire un tout petit passage, un tout petit poème, extrait de son œuvre, pour vous en donner une meilleure idée.
Merci. Alors, vous allez voir, c'est très court, ne vous inquiétez pas. C'est un résumé du conte de Perrault qui s'appelle « Les Fées » et qui est assez peu connu. Beaucoup de gens ne connaissent pas ou ne connaissent plus ou l'ont oublié. Voilà. Ceux qui connaissent bien s'en souviennent parce qu'il est assez terrifiant, justement. Alors, voici une terrine. Ah oui, on vient de manger, mais cette terrine-là ne vous rendra pas malade, enfin j'espère, parce qu'elle n'a qu'un seul R. Terrine, terre-in, c'est une application mathématique lancée par Raymond Queneau qui écrivait des nines, des quenines, donc des sextines, des onzines, etc., etc. La terrine, c'est la plus courte et la plus simple. Alors, terrine de la fontaine aux fées. Au creux du bois, la fontaine. Y vint un jour une fille. Il y avait là une fée. Déguisée était cette fée, qui guettait à la fontaine comment serait chaque fille. À bonne et mauvaise fille, offrit dons opposés la fée. Pétrifiante, la fontaine. En rose ou en serpent, se fait la fille à la fontaine.
Voilà, vous avez entendu les rimes internes qui
tournaient
dans ce poème.
En spirale.
Bon, donc on est face à des pratiques qui sont quand même assez différentes dans nos trois intervenants. Donc on va commencer par faire simple. C'est une question donc plutôt pour Marie-Charlotte, mais je pense que les autres auront des choses à dire là-dessus. Est-ce que les contes sont des histoires épouvantables? On a tous plus ou moins en tête l'idée selon laquelle on donne à nos enfants, on lit à nos enfants des versions qui seraient édulcorées, qui auraient à l'origine des contes très durs, et puis que progressivement, il y a eu des strates littéraires qui sont venues s'ajouter là-dessus. Le Grand Siècle aurait, peut-être chez Perrault, vous ne serez pas d'accord, mais aurait fait quelque chose de plus joli avec ça. Et puis, au fur et à mesure que ça s'était adapté pour les enfants, ce qui n'était pas le cas au départ, ça devenait de plus en plus gentillet. Est-ce que c'est vrai ou pas du tout?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. D'abord, les contes, ça n'existe pas. On peut parler de contes facétieux, on peut parler de randonnées, on peut parler de contes populaires, on peut parler de contes savants, on peut parler de contes merveilleux, on peut parler de contes philosophiques. Voilà, donc les contes en général, c'est un genre qui n'est même pas bien défini entre le populaire et le savant. Déjà, hop, ça c'est fait. Ensuite, non, les contes sont pas, n'étaient pas des contes terribles parce que les parents avait... Moi, je vais dire plein de choses en bras, tiens. Première chose, les parents avaient pour leurs enfants toute une série de croque-mitaines. Voilà. Ces peurs-là étaient indispensables parce qu'elles protégeaient les enfants à une époque où on avait une époque où la France, au XVIIIe siècle, rappelons-nous que la France est à 95% rurale à la fin du XVIIIe siècle. Ça veut dire que les enfants, ils sont dans des fermes avec des puits, avec des mares, avec des rivières à côté, avec tout un tas de dangers. Et donc, d'où, je ne vais pas dire l'invention du croque-mitaine, parce qu'il y en a déjà dans l'Antiquité, les Grecs en avaient des croque-mitaines. Et bon. Donc, d'où l'invention du croque-mitaine, c'est-à-dire qu'on va, faire peur avec un monstre. Voilà. Alors, il y a des croque-mitaines du puits, il y a des croque-mitaines de la rivière, il y a des croque-mitaines des greniers, il y a même des croque-mitaines de poux, il y a même des croque-mitaines de l'obéissance, bien entendu, et je pense que, peut-être pas les plus jeunes, mais les autres ont peut-être été menacés de certains croque-mitaines, le loup étant le dernier croque-mitaine, le loup-garou, qui ne veut pas dire grand-chose, mais le loup étant le dernier croque-mitaine. Donc ça, c'était pour les enfants. Les peurs, alors je sais que je sors du sujet, mais les contes à peur étaient des contes adultes. En fait, ce n'étaient pas des contes, c'était ce qu'on appelle des mémoras. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, quand vous êtes autour d'une table avec des amis et que vous commencez à raconter des histoires un peu extraordinaires du voisin d'à côté qui a vu un extraterrestre ou du poltergeist dans la maison du fond du village ou de... voilà. Et on se fait peur tous ensemble et tout le monde, faites l'expérience, a une histoire de ce type à raconter. Mon grand-oncle, ma grand-tante, voilà, tout le monde a vu ça. Donc ça, c'est ce qui pourrait être, et c'est ce qui est devenu des contes un peu de peur. Mais au départ, c'était simplement des récits qui se faisaient dans les veillées pour occuper les gens pendant qu'on travaillait. La veillée, ce n'était pas du spectacle. Donc pendant qu'on travaillait, on se racontait comme ça un certain nombre d'histoires qui faisaient peur. Le diable, voilà. L'Église, d'ailleurs, elle-même, a été un très fort producteur d'histoires qui fait peur, en particulier à travers les exemplaires qui étaient des petites histoires, des petits contes récupérés pour les sermons. Voilà, on envoyait ça chez les curés, il y avait des recueils d'exemplaires des 13e, 14e siècle, et alors on racontait des histoires abominables pour faire peur aux gens. Voilà. Donc je vais pas aller plus loin que ça, mais non, il n'y a pas de compte pour pas. Et juste pour dire, et néanmoins, la table ronde s'appelle « Pourquoi les enfants aiment les contes abominables ?» Et moi, je l'aurais intitulé personnellement...
Non, c'est pas ça, c'est pourquoi les parents aiment raconter des histoires abominables.
Voilà, alors je l'aurais intitulé « Pourquoi il est nécessaire pour les enfants de leur raconter des histoires abominables ?»
On y reviendra. mais tout de même, Chantal, il y a des contes, il y a des histoires affreuses, enfin, c'est des parents qui abandonnent leurs enfants dans les bois, il y a des loups qui mangent
les ogres, c'était une réalité. Il y avait des anthropophages, d'une part, il y en a toujours eu, il y en a encore, c'est peu dit, mais enfin, il y en a encore quelques-uns, bon. C'est des tarés, mais enfin, bon, ça existe. Mais les famines existaient, les grandes faims, les grandes épidémies, quand tout le monde crevait, les sièges, hein, quand une ville entière est assiégée et qu'au bout de 6 mois, les gens n'ont plus rien à manger, ils mangent les chats, ils mangent les chiens, et puis ils commencent à regarder les oiseaux, et puis les petits bébés, voilà. Voilà, ça, le conte, c'est pour ça que j'aime le conte, ça a toujours correspondu, même si c'est passé par un prisme, par une moulinette qui le distancie un petit peu, ça a toujours correspondu à des réalités. Peau d'âne, c'est l'inceste. C'est le père qui a envie de la fille et la fille qui a envie du père. Et inutile de parler de tous les cas actuels, on en voit de plus en plus. Et voilà, ce sont des choses qui ont toujours existé. La belle-mère, les familles recomposées. Alors maintenant, on en a encore plus des familles recomposées. Mais voilà, donc on se retrouve tout à coup comme Cendrillon avec deux demi-sœurs qu'on n'a pas voulu. Qui vous ont pas voulu, donc ça marche pas à tous les coups. La famille, la sauce prend pas forcément quand elle est plaquée comme ça. Ça peut, Dieu merci, marcher, mais Il y a des fois où ça ne fonctionne pas. Donc le conte, la peur du conte vient d'une réalité. Et la peur du loup, il y avait aussi une réalité. Moi qui viens d'un pays de bois, comme dans les Vosges d'ailleurs, je me rappelle bien de la bête des Vosges. Mais moi j'ai des ancêtres qui ont chassé la bête avec un grand B, c'est-à-dire la bête du Gévaudan. Encore maintenant, ça reste dans les mémoires alors que c'était il y a 3 siècles et que... on n'a jamais trop su ce que c'était cette bête. Donc voilà, il y a des choses comme ça, des peurs à partir de réalité. Il y a réellement eu un loup, ou en tout cas une bête qui est gorgée, les jeunes filles et les enfants, et bon. Et ça s'est développé, ça devient une légende, ça devient un mémora, comme tu disais. Donc ça passe, et après, ça devient des contes. Donc le chaperon rouge a une vraie réalité, d'autres aussi. On peut prendre à peu près n'importe quel conte, il y a toujours quelque part une réalité. Les fées dont je vous parlais là tout à l'heure, c'est quand même une mère seule avec ses 2 filles, et... il y a toujours une fille préférée ou un fils préféré si c'est des garçons. Il y en a toujours un qui est plus aimé que l'autre, surtout si les gens sont un peu frustes. Donc la bonne devient mauvaise par les yeux de sa mère, et la mauvaise est bonne puisqu'elle ressemble à sa mère. Donc on est dans le manichéisme, mais en même temps c'est des choses qui ont existé. Il y a des voilà.
Je vais juste dire, je ne prends pas la place, Victor. Non, mais c'est juste parce que j'abonde dans ce que tu dis, Chantal, et je me faisais en moi-même la réflexion qu'effectivement, le petit poucet, le chaperon rouge, quelque part aussi, ce sont des contes croque-mitaines.
Tout à fait.
Voilà. Ne nous égarons pas, dans la forêt, il y a le loup, et le petit poucet, ben voilà, dans la forêt, il y a aussi la maison de l'or, etc. Et voilà,
c'est toujours des avertissements. Alors, mais aujourd'hui, donc, Victor, parce que... maintenant, les enfants, enfin en tout cas les enfants occidentaux, sont très protégés, même si des prédateurs rôdent également. Mais même les enfants très protégés ont toujours un monstre sous le lit. Mmh. Donc il y a aussi quelque chose qu'on s'invente soi.
J'allais bien réagir là-dessus, ouais. Effectivement, par rapport à cette question et ce que j'ai appris en écoutant Chantal et Marie-Charlotte, qui sont des spécialistes, donc c'est toujours agréable d'apprendre ses origines du conte. Moi, j'ai envie aussi de restituer un peu mon expérience de lecteur de contes. Mm-hmm. Cette envie d'avoir peur, de se faire peur, que j'ai eu moi étant enfant quand je lisais des contes, que j'ai encore maintenant adulte quand je lis certains romans ou quand je vais voir certains films. Je pense qu'il y a un besoin, que j'explique mal, mais de sentir, de ressentir des choses qui font peur. Et quand on écoute Marie-Charlotte et Chantal, elles nous expliquent que le conte, il a une double fonction. Ça peut être effectivement des faits qui ont vraiment eu lieu, qu'on va se répéter, qui vont accéder comme ça à un statut légendaire. Les mémoras. En même temps, il y a une fonction pratique du conte. C'est pour justement éduquer, dire qu'il ne faut pas aller dans les endroits qui sont peut-être dangereux. Mais moi, j'ai l'impression que dans les figures des contes, il y a aussi une résurgence, une résurrection de mythes qui sont inscrits au plus profond de notre imaginaire collectif, peut-être même dans notre cerveau reptilien. On parle de croque-mitaine depuis le début de cette table ronde, en citant peut-être des cas qui ont vraiment existé de vrais croque-mitaines. On peut penser à Gilles de Rais, par exemple, qui a inspiré le personnage de Barbe Bleue. Mais moi, je pense aussi à Saturne dévorant ses enfants, donc à des figures mythologiques Chronos. Qu'on retrouve dans Chronos, qu'on retrouve partout dans toutes les cultures. Bon, cette peur de la dévoration, on était des proies pour des prédateurs pendant très longtemps. Hein, mm-hmm. On montait dans les arbres pour leur échapper, et ça nous reste inscrit au plus profond de notre code génétique. Et quand on ouvre des livres aujourd'hui, on a envie parfois de retrouver ces sensations, peut-être pour les exorciser. Je pense que c'est une des fonctions des contes et une des fonctions de la littérature horrifique.
Et puis, pardon, si je peux abonder encore, excuse-moi.
Bah oui, si ça tourne,
il y a aussi, notamment dans les mythes, le rapport avec les animaux. Toutes ces chimères, mi-homme, mi-poisson, ça c'est les sirènes, mi-homme, mi-cheval, c'est les sagittaires, mi-homme, mi-je ne sais pas quoi d'autre, enfin il y en a des centaines et des centaines dans la mythologie. Ça nous renvoie à quelque chose d'effrayant, à notre propre animalité, à des choses pas toujours très nettes, voilà, c'est pas forcément gentil comme la licorne qui va purifier l'eau avec sa corne. Ça peut être des bêtes monstrueuses, méduses, enfin pensez à tout ce qu'on peut trouver dans la mythologie. Ça se retrouve dans les contes d'une autre façon, et d'où le fait que dans les contes apparaissent des personnages secondaires qui, pour atténuer les choses ou pour les aplanir ou pour les supprimer, vont avoir un rôle important. Le bûcheron dans les bois, alors qu'il est là avec sa hache, il pourrait être terrifiant, le bûcheron. Ben, c'est celui qui va quand même empêcher le loup de venir. Pensez aussi à Pierre et le loup. Bon.
La civilisation
contre la sauvagerie, alors que les hommes des bois n'étaient pas forcément très rigolos, hein, y compris au 20e et 21e siècle. Pensez au film Délivrance, les hommes des bois américains qu'on y voit, assez gratinés dans le genre. Donc il y a aussi ça, la part d'animalité réelle ou supposée, et qui est là. J'ai une fille qui est vétérinaire et qui me dit... elle l'est depuis peu de temps, donc elle n'a pas beaucoup d'expérience, mais elle a fait des stages. Elle dit il y a des paysans qui finissent par dire que quand même leurs chèvres, leurs vaches leur servent à autre chose que donner du lait.
Mais Chantal, voyons.
Ah non, mais c'est absurde. Moi, je n'en revenais pas.
Ces histoires abominables là.
Alors, faut-il de raconter ça aux enfants?
Non. Mais on peut leur raconter de ne pas s'approcher du loup. On peut leur raconter de ne pas s'approcher du loup.
Voilà. Attention à votre part animale.
Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Victor. Que c'est effectivement très intéressant cette question de la psyché humaine. Je ne vais pas m'engager dans le mythe de la dévoration. Je ne suis pas sûre que la métaphore de Cronos, du temps qui dévore ses enfants, soit une ogritude. Je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas trop. Mais par contre, je crois qu'effectivement, les grandes peurs qui sont les nôtres dans ce chemin de la vie qui nous conduit de façon très brève de la naissance à la mort, ont besoin de masques de la peur. C'est le cas pour les enfants. On sait très bien que les croque-mitaines, que les histoires abominables pour les enfants sont une sorte de... pas une sorte d'ailleurs, sont une façon de mettre des masques sur des peurs ou des angoisses existentielles qui ne peuvent pas trouver évidemment de résolution, comme celle des adultes d'ailleurs, et que du coup ça permet, ce masque, ce personnage, ce monstre, permet de mettre à distance, d'avoir quelque chose face à soi et de le maîtriser. Et la maîtrise est d'autant plus forte qu'elle est dans un livre ou dans un conte. Il était une fois, il était une fois. C'est-à-dire que ce n'est pas ici et maintenant. Et le livre, si j'en ai peur, eh bien, je le referme. Hein, voilà. Max et les Maxi-monstres, il y a un cauchemar dans mon placard. Voilà. Je vais maîtriser la peur. Et c'est exactement, et c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup, cette question de la psyché, de l'ombre, pour reprendre le vocabulaire de Jung, parce que je crois que nous possédons, nous aussi, nous sommes tous face à de grandes angoisses. L'angoisse de la mort n'est pas la moindre. Hein, et que des mouvements comme les mouvements gothiques, par exemple, ou comme le fait d'avoir des films violents avec des morts violentes, etc., les psychologues nous disent que c'est une euphémisation, c'est-à-dire c'est la mort par homéopathie. C'est une façon d'y aller par petits bouts, de l'accepter, de le voir. Et il est probable, alors je n'étais pas là, et puis toi non plus, mon cher Victor, mais il est possible que dans les temps très reculés, etc., la psyché humaine n'a pas bougé. Les paléontologues nous disent, ceux qui travaillent en particulier, je pense à Claude sur le chamanisme, qui a amené cette thèse un peu révolutionnaire de l'art pariétal et du chamanisme, pour justifier, il travaille avec des biologistes, Claude, l'ancien conservateur de la grotte Chauvet.
D'accord.
Et il dit, bah, de toute façon, s'il y a bien une chose qui n'a pas changé, c'est ça, et même biologiquement, c'est-à-dire que les états seconds existaient déjà. Les angoisses existaient déjà. Il y a des choses qui n'ont... L'homme a évolué sur un certain nombre de plans, mais alors que ce soit le cerveau reptilien, que ce soit... c'est surtout chez les hommes qu'il n'a pas beaucoup bougé le cerveau reptilien. Excusez-moi. Hein. Bon. Mais voilà, je pense que dans notre psyché, on a besoin... Et nous, auteurs, il faut aussi qu'on se mette dans le bain. Ce n'est pas que les lecteurs... C'est-à-dire que je pense que nous, ici, qui travaillons sur la mort, les vampires, les machins, les êtres, c'est aussi une façon de mettre un petit peu de baume sur nos propres angoisses, Et d'apprivoiser nous aussi le diable, la mort, voilà, en créant l'immortalité ou en créant des personnages qui nous soignent aussi.
Pour rebondir sur ce que...
On rebondit
pas,
beaucoup.
Oui, on rebondit, Chantal rebondit également.
Quelque part.
Alors, on rebondit beaucoup dans
ce festival. C'est un vrai trampoline. Mais on parle d'ombre, de part animale. Moi, c'est des thèmes qui me parlent. C'est ce que j'essaye d'explorer dans les livres que j'écris. Tout à l'heure, Anne, tu nous as dit que c'était dans une tendance gothique. Et c'est vrai que je les définirais comme tels. C'est vrai qu'il y a une fonction peut-être d'exorcisme, de représenter comme ça ces angoisses, de mettre en scène ces instincts.
De catharsis.
Ou de catharsis, même pour les vivre par procuration à travers le texte. Il me semble que la figure de la fée, hein, ou de l'ogre, toutes ces figures de contes de fées sont des figures primaires qui incarnent des instincts. Ils sont complètement dans la pulsion. Dans la pulsion, alors je reviens sur le mot de dévoration, parce que l'ogre, c'est quand même ça, c'est un ventre sur pattes qui veut dévorer. La marâtre, c'est la pulsion de vengeance, de stopper la croissance de tout ce qu'il y a autour d'elle pour ne pas être détrônée, et ainsi de suite. Et le fait de mobiliser ces personnages, de les mettre en scène dans un roman, ça permet peut-être par catharsis justement de les exorciser et de se civiliser un peu.
Non, mais je disais dévoration parce qu'il y a tout un travail qui a été fait sur le thème de la dévoration et de l'amour maternel. Et des fois de l'amour tout court. Et ne serait-ce qu'au niveau du vocabulaire. On mange nos enfants, on mange le. Je vais te manger le pied, je vais te manger. Il y a ma fille là-bas, je vais te manger le pied, je vais te manger les. On a envie de dévorer les gens qu'on aime, et on dit d'ailleurs que l'amour est un feu qui dévore. Enfin, il y a tout un travail qui a été fait par des gens beaucoup plus expérimentés que moi là-dessus, donc je ne m'y hasarderai pas, mais sur ce thème de la dévoration et de l'amour, et en particulier de l'amour maternel et de l'envie que nous avons. Nous, mères, pour un certain nombre d'entre nous, de dévorer,
de faire rentrer,
les enfants qu'on a mis au monde, dire je vais te manger, je vais te dévorer. Voilà. Moi, j'ai ressenti ça de façon très forte dans le rapport à l'enfant, dans le rapport charnel à son enfant, l'envie de dévorer. Alors, bon, métaphoriquement, je ne veux pas manger vos enfants. C'est pour ça, toi, je te disais, c'est très complexe.
C'est pour ça que les enfants aiment les histoires qui font peur, oui. Parce que ça leur fait du bien, parce que ça leur permet de canaliser des angoisses qui, sans cela, resteraient.
C'est ce que disent les psychanalystes. Moi, je suis pas psychanalyste, mais c'est ce que disent les psychanalystes. Alors, je parlais l'autre jour de René Diatkine. Alors, c'est pas le même public, mais vous étiez là. Je suis désolée, je vais remettre ça. Alors on pourrait parler de Bettelheim aussi qui évoque ce côté de la maîtrise des peurs et tout ça, et pareil pour René Diatkine et Tony Lenné, au bout d'une dizaine d'années d'expérience de psychanalyste avec des enfants, avec des adolescents, se sont rendus compte que ces adolescents à problème avaient tous un trait commun, et que ce trait commun, c'était que dans leur enfance ils n'avaient pas été mis en relation avec le langage de l'imaginaire. C'est-à-dire qu'ils avaient acquis un langage du réel, hein, c'est une chaise, signifié, je vais appeler chaise, tout ce qui... voilà, c'est pas que celle-là, enfin voilà, je me lave les dents, Mais le langage des contes, parce que c'est quand même celui-là, ou des livres pour enfants, des récits pour enfants, ils n'avaient pas été mis en relation avec. Et donc, c'est pas le cas de tous, mais ceux-là, en tout cas... en avaient fortement souffert, et une partie de leur trouble venait de cette absence de... Voilà, donc ils n'avaient rien eu, pour revenir à notre sujet, pour canaliser leurs angoisses, leurs peurs, enfin l'enfant, imaginons-nous, quoi, je veux dire, l'univers, ne serait-ce qu'une pièce, tout fait peur, quoi, quand on est enfant, marcher, ça fait peur, voilà. Donc, et alors, c'est la raison pour laquelle ils ont lancé ce mouvement qui aujourd'hui nous paraît avoir toujours été là, mais qui à l'époque ne l'était pas, parce qu'il n'y avait pas encore de développement de la littérature enfantine, et en particulier de la littérature pour les bébés. Et ils ont lancé ce grand courant chez les bibliothécaires que nous sommes, on est toujours, hein, de bibliothécaires, qui était: on n'est jamais trop petit pour lire. Et donc ils se sont mis à aller raconter des histoires, à montrer des images à des bébés à partir de 3-4 mois, etc., pour les mettre en relation avec ça, et pour que les enfants puissent avoir justement ces outils de, 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 voilà, pour mettre leur peur à distance. Donc le conte, là, est très important.
Et
là,
du conte, c'est toujours quelque chose qui existe dans les...
Attends, on va en parler. Je vais juste dire, en illustration de ce que vient de dire Marie-Charlotte, moi, j'ai longtemps accompagné des comédiens dans les hôpitaux, dans le cadre de Culture à l'hôpital. Ah, oui. Et notamment, les grands prématurés, vous savez, ceux qui sont grands comme ça, qui font quelques centimètres et qui sont nés à 6 mois ou 5 mois, à peine viables. Bon. J'ai vu des bébés tuyautés de partout, même sous le pied, enfin bon, avec des moniteurs et un espoir de vie très très faible, sourire parce qu'on leur disait ou leur chantait une comptine, notamment la souris verte, et l'interne ne pas y croire et venir et dire c'est pas possible, et nous on venait avec deux comédiens et voilà, il se passe, et la mère qui était complètement traumatisée d'avoir eu un enfant comme ça trop tôt, puisque c'est en général soit des accidents d'accouchement prématuré, soit quelque chose qui s'est passé, les mères reprenaient espoir. Alors bon, c'est peut-être que pour quelques minutes, mais pour dire, même tout petit, non seulement tout petit, mais même dans le ventre, même d'ailleurs, bon, l'aptonomie, enfin, il y a eu aussi des choses avec les fœtus. Voilà, moi je racontais des histoires à mes enfants quand ils étaient dans mon ventre, hein. Je sais pas ce qu'ils entendaient, mais enfin, bon. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, à la fois pour le langage, pour la musicalité de la langue, c'est très très important, et puis ce qu'on dit, donc voilà, il y a...
Dans ces cas-là, peut-être plutôt des histoires rassurantes.
Ah oui, oui, on va pas les raconter une histoire de vampire.
Non, mais est-ce que dans l'heure du conte, on va raconter des histoires effrayantes? Ça.
Bon, je reste à l'intérieur. Je ne veux plus sortir.
Est-ce qu'il y a quand même une censure ou une auto-censure? Est-ce qu'il y a des limites? Et c'est une question que je poserai aussi à Victor dans la manière dont son livre a été reçu.
Moi, j'ai l'impression que déjà dans les contes dits traditionnels, je ne sais pas si c'est une censure, mais il y a une réinterprétation dans la culture dominante, on va dire, qui est Walt Disney, on en avait parlé la dernière fois, qui est quand même assez édulcorée. Je ne sais pas si ça s'apparente à de la censure, mais tout de même, on a quelque chose d'assez pâle par rapport aux contes originels, dans leur intensité, parfois dans leur violence et dans leur charge émotionnelle. Donc moi, j'avais présent à l'esprit justement les contes de Walt Disney quand j'ai écrit Jack Sparks, et j'ai voulu casser un peu cette image qu'on a tous, cette image qui est à mon avis un peu carton-pâte, pour ressusciter les figures des contes dans toutes leurs dimensions et toutes leurs puissances.
Et est-ce que, j'imagine, est-ce que des lecteurs, ou pour vos premiers lecteurs, ceux qui vous ont édité, je ne sais pas, est-ce qu'on vous a fait des remarques sur c'est trop dur, ça va trop loin, c'est pas adapté à tel ou tel public?
En ce qui concerne, pour mon expérience sur Jack Sparks, en ce qui concerne Jack Sparks, j'ai eu la chance peut-être d'être édité par un éditeur qui n'avait jamais fait de jeunesse, donc qui n'avait pas de filtre dans sa lecture du texte par rapport à ça, donc j'ai pas été censuré à ce niveau-là, et la manière dont le texte a été reçu par ses principaux destinataires, c'est-à-dire par les lecteurs adolescents, en ce qui me concerne, ça a posé aucun problème. Parce qu'on a envie de se faire peur, à tous les âges.
Et il y a de plus en plus aussi une culture adolescente qui a été développée autour de...
Il suffit de voir tous les teenage movies, tous les films d'horreur, le principal public, ce sont les adolescents, bien sûr.
Donc il y a eu un vrai développement de... Et puis il y a devant nous un certain nombre de jeunes femmes qui sont gothiques, voilà, qui vont aller vers le noir, mais voilà, et volontairement, on sait que c'est un mouvement extrêmement,
oui, mais on se
extrêmement
fait peur.
Important.
On se fait peur, et l'expression est parlante. On n'a pas peur.
On se fait peur pour ne pas avoir peur, justement.
Donc se faire peur, c'est maîtriser, c'est-à-dire je regarde, moi quand je regarde, déjà des fois je regarde comme ça, voilà, c'est j'éteins, je vais à la cuisine, machin, voilà. On se fait peur, on a le contrôle, et l'important par rapport à ces peurs, c'est de garder le contrôle.
C'est ce que tu disais avec le livre qu'on peut refermer.
C'est exactement, il était une fois, je referme, je machin. Moi je me suis posé cette question par rapport aux jeunes lecteurs, et quand j'écrivais dans la collection Chauve-souris que j'ai dirigée 2 ans, mais je me suis posé cette question, vraiment, par rapport aux enfants, d'autant plus que moi ce sont des ados qui étaient en danger à chaque fois dans le fantastique, et je pense qu'on a une responsabilité quand on s'adresse à un jeune public, En termes de religion, en termes de... Voilà, il faut que ça puisse aussi convenir à tout le monde. Donc, je sais qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus, mais moi, je le dis. Je sens une vraie responsabilité. Et au niveau de la peur, je l'ai senti aussi, cette responsabilité, parce que je les ai toujours mis en danger et je les ai toujours fait, gagner par rapport à ce danger, pirouette. Et moi, j'étais une lectrice du Club des Cinq quand j'étais petite et de Fantomètre. Vous connaissez plus ça.
On fait pire
dans ce genre de spectacle. C'était des enfants qui étaient quand même, ouais, qui se mettaient en danger parce qu'ils faisaient des enquêtes, etc. Mais quand on est enfant et qu'on est, voilà, face à ses peurs, c'est bien d'avoir une, ouais, série, ouais, où on sait que de toute façon, ils vont gagner à la fin.
Voilà.
Et ça je trouvais ça excessivement rassurant. Ce que je trouve un peu inquiétant, mais je me trompe peut-être, c'est le contraire. C'est-à-dire quelque chose qui relancerait une nouvelle angoisse. Voilà. C'est-à-dire qui ne serait pas rassurante à la fin. Où on rentre, pour un adolescent, où on rentre dans quelque chose, voilà, je vais me perdre pour me trouver. Il n'y a pas 36 solutions pour se trouver. Il n'y a que la perte. Donc, voilà, je me perds dans un livre pour essayer de me trouver et peut-être je vais attraper des clés au passage. Mais il faut qu'à la fin, je sois tranquillisée. Oui. Il faut qu'à la fin, Max soit le roi des monstres. Il faut qu'à la fin, je sois copine avec le cauchemar du placard, etc.
Voilà. J'ai une question à te poser par rapport à ça. Est-ce qu'on est du coup condamné au happy end quand on écrit pour la jeunesse? Parce que c'est ce qui semble surgir dans ce que tu dis.
Non, mais on peut dire, c'est pas pour du vrai. Quand ça se termine, oui, mal. Moi, c'est ce que je faisais quand je faisais l'heure du conte, puisque on nous a interrogé sur l'heure du conte. Effectivement, je pratiquais quand même une certaine autocensure, ne serait-ce parce que les parents ne veulent pas forcément là, voilà, que... Voilà, non, ils ne sont pas forcément là, mais si l'enfant retraduit, on m'a dit des choses affreuses.
Et il fait des cauchemars après.
Voilà, hein, faut se méfier. Mais quand je voyais vraiment qu'un enfant réagissait par de la peur à un conte, une histoire d'ailleurs, dont je venais de parler, je disais, mais rassure-toi, c'est pas pour de vrai. Alors là, oui. Aussitôt, c'est presque une formule magique. Enfin, c'est pas Sésame, ouvre-toi, mais c'est... voilà.
Et moi, j'aime que les happy ends. Ça m'agace les films qui se terminent mal. Voilà.
D'accord.
Donc, déjà. Donc, je vais pas écrire des trucs qui se terminent mal, alors que j'aime bien les trucs qui se terminent
bien. C'est fantastique d'avoir la main qui ressort de la tombe, voilà, ou l'œil qui se rouvre au dernier moment, et on croyait que ça, voilà, allait bien, et finalement, non.
Voilà.
Ça, mais quand même...
Tous mes romans, à la fin, on pouvait dire, et si c'était vrai? Sauf que là, je laisse la liberté. Et si c'était vrai?
D'accord. Okay, donc voilà. On peut imaginer que ça,
ouais, va... On peut imaginer, ouais, c'est pas... Mais bon, mais je veux dire, j'aime les happy ends, je vais pas m'amuser à écrire des trucs tristes, enfin, tu vois, qui se terminent mal. Après, voilà, puis... Voilà, c'est... Si personne ne lit, moi, je dirais, je serais très contente que ça se termine bien.
Ah, non, Jacques Spark a l'air d'évoluer vers bientôt été irradié.
Oui, c'est vrai qu'il y a une espèce de crescendo, là, de...
Il se venge, hein.
Oui. Non, moi
j'ai des fins très noires parfois, mais il y a toujours justement le c'est pas vrai. J'en ai une où je tue tout le monde parce que ça m'avait énervé. J'avais une sorcière, bien sûr, une sorcière et une sirène qui se battaient pour le même prince charmant qui était un marin corse. En plus, raconté en contrainte du prisonnier, alors donc on enlève la moitié des voyelles et des consonnes de l'alphabet, donc il en reste pas beaucoup. Ah, oui, donc oui, oui. Voilà, c'est très. C'est, au bout d'un moment, j'en ai eu marre. J'avais fait une très belle fin, ils se mariaient, etc. Je trouvais ça un peu nunuche. Alors je me suis dit, bon, allez, il faut continuer. Et alors pour continuer, il fallait tout démolir. Donc je les ai tous tués. Et puis j'ai quand même terminé. C'en est une qui rêvait tout ça. Donc c'est pas vrai. Donc quand même, voilà.
Et c'est vrai que pour, ouais, en revenir à.
C'est pas happy, c'est. Petit peu. On est soulagé. Voilà, que ça soit
Alice,
pas vrai. Ça aurait pu être vrai. Voilà,
c'est Alice. C'est Alice. C'est Alice. Voilà, Lewis Carroll la met, voilà, dans un monde terriblement effrayant, etc. Il est pour moi le plus grand auteur de tous les temps. Voilà.
Oui, parce que le monde est pour toi effrayant.
Il la met dans un monde effrayant, etc. Onirique, mais bon, sans qu'on l'a. Et puis elle se réveille. Ou alors elle passe derrière le miroir et elle repasse derrière le miroir. C'est-à-dire qu'il y a toujours. Je pense que c'est important qu'il y ait toujours cette porte.
Voilà.
C'est la porte que tu mets en disant, voilà, il y a toujours une porte qui permet
de revenir là,
est-ce que le livre en lui-même le fait, comme tu disais, de l'ouvrir et de le refermer,
c'est une porte.
C'est une porte déjà qu'on ouvre et qu'on referme.
C'est une porte.
Alors, je ne sais pas s'il est nécessaire forcément d'en rajouter une autre à l'intérieur du récit. Est-ce que le fait de pouvoir refermer
vite à vie, Victor, moi je vais te dire. Mais c'est partout où tu veux, je vais te dire.
C'est le pouvoir, ce que vous décrivez, c'est le pouvoir de la fiction. C'est-à-dire de quelque chose qui se présente comme voilà, ça n'est pas vrai. Et on partait des origines dans le réel du conte pour en arriver à cette distance par rapport au réel qui est forcément celle de la fiction. Ça me semble assez intéressant. C'est une des questions qui sont le plus soulevées par les enfants quand ils sont petits et qu'ils en sont justement à ce moment où ils improvisent. Leur peur, c'est est-ce que c'est vrai ? Enfin, est-ce que le loup, je vais effectivement pouvoir en rencontrer ? Est-ce que là, il y a des loups ? Est-ce que dans cette forêt du bois de Boulogne, il y a un loup ? Et alors, voilà,
il y a eu la bête des Vosges ici dans les années 70, donc, je me rappelle très bien. Parce
dans
que
des forêts lointaines.
J'étais à Colmar, on avait fait venir un louvetier pour faire une expo sur le loup. On avait fait un opéra, L'homme au loup, d'après Freud. Avec Apergis, et donc voilà, la bête des Vosges avait, vraie ou fausse, avait donné toute une série de d'avatars, on va dire, sans mauvais jeu de mots avec le film, un peu partout à ce moment-là, parce que c'est vrai que ça remuait la bête du Gévaudan, ça remuait la peur du loup, ça remuait, on n'a jamais su ce que c'était, si c'était un gros chien ou quoi, mais ou si c'était une invention pure, mais il y avait quand même eu quelques brebis égorgées, donc il y avait quelque chose de pas tout à fait normal, mais il y a eu, et c'était les années 70, donc
il y a de nouveau des loups en 90,
j'étais plus là,
on ne peut pas dire aux enfants,
on a cru au loup-garou très tardivement. Oui. On a des témoignages de croyances au loup-garou assez nombreuses à la fin du 19e et encore au début du 20e siècle. Et le loup-garou étant la transformation d'un sorcier ou d'une sorcière en animal. Il n'y a pas que des loups d'ailleurs, il y a tout un tas d'animaux garous.
La biche.
Mais on l'a cru et on a raconté, on a tué des gens pour ça d'ailleurs. Jadis à la Renaissance, dans les grandes parties de bûcher de la Renaissance, mais de sorcières, oui, 100 000, un peu plus de 100 000. Mm-hmm. Là, on n'a pas encore fini de dépouiller les dossiers de l'Europe de l'Est. On va dépasser les 100 000 morts imaginées pour une population qui était évidemment beaucoup moins nombreuse qu'aujourd'hui. Ce que ça peut représenter. Voilà, mais on y a cru assez longtemps, ça, au loup-garou. Et je parlais avec une amie auteure, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs, de la pénombre, de l'ombre. Et elle me racontait la tempête, en me disant l'année où il y a eu la tempête, pendant 15 jours, on n'a eu ni chauffage, ni électricité, ni rien. Ben, tout d'un coup, les peurs ancestrales, elles reviennent. Parce que à la bougie, ben, c'est pas tout à fait pareil.
Les ombres ne sont pas les mêmes,
ça bouge. On a beau se dire, oh là là, non, j'ai pas peur, etc. Il y a des peurs comme ça qui se...
Le froid, le vent, le bruit, le
vent qu'on entend souffler. Tu as tout à fait raison qu'on entend souffler, le truc, les vieilles peurs, elles reviennent.
Elles sont tapies. Elles attendent une occasion pour ressurgir.
Oui, elles sont terribles. Oui. Elles sont là.
Sous notre lit.
Ah oui, moi, pendant la tempête, j'ai eu un trou d'à peu près 3 mètres dans mon toit. J'ai eu des peurs absolument surréalistes de que quelqu'un rentre par le toit. C'est les 2-3 nuits où j'ai pas eu le couvreur. Ben, Noël venait de passer. Ça aurait pu être la Befana. La Befana italienne.
Le Père Noël est terrible.
D'ailleurs, les cadeaux sont pourris.
Oui, on va laisser la parole à la salle pour les 5-10 minutes qu'il nous reste. Oui.
Dans le débat que vous aviez tout à l'heure, j'ai fini par me poser la question, est-ce que le happy end est propre aux femmes ou à la génération ou à notre génération ? Parce que je me dis que lui étant plus jeune, mais c'est aussi un homme, Est-ce que ce sont les hommes qui n'aiment pas les happy end pour prendre le contre-coup des femmes, peut-être, les femmes qui aiment bien quand même effectivement faire un peu rentrer leurs enfants au chaud, ou est-ce que c'est le propre de la nouvelle génération qui veut justement faire un peu le contre-Disney, hein, avec bon, la génération Shrek, je veux dire.
Moi, je vais parler pour moi, parce que je vais parler en tant qu'homme, et après, je laisserai la parole aux personnes qui sont autour de la table. Je pense qu'il y a une double réponse. Peut-être que quand on s'adresse à la jeunesse, peut-être que qu'un écrivain homme a un peu moins de réticence à ne pas faire un happy end. Mais ça, je ne suis pas du tout catégorique, je ne sais pas. Maintenant, pour la question générationnelle, j'ai l'impression effectivement que les jeunes générations sont des générations qui maîtrisent plus les codes des productions culturelles, qui sont complètement dans la pop culture, et qui aiment bien casser justement, casser un peu les idoles, remettre en question les codes, et avec un esprit parfois de contradiction comme ça. Donc à mon avis, il y a un besoin effectivement d'échapper au happy end, qui était quand même la contrainte imposée par Hollywood notamment, sur toutes les histoires qu'on s'est vu raconter au cinéma. Donc je pense qu'il y a ce besoin un peu jouissif, exutoire de sortir du happy end. En tout cas moi en tant que lecteur et en tant qu'auteur, je le ressens.
Et puis ils sont très familiarisés avec une culture du fantastique et de l'horreur, donc on peut aller plus loin parce qu'il y a justement une petite mitridisation. Ils sont, voilà, ils...
Moi je pense que chacun déjà... transcende de ses peurs comme il peut. Point barre. Voilà.
Si je peux me permettre, peut-être aussi parce qu'on vit dans un monde qui offre de moins en moins de dangers directs. Je veux dire, enfin, c'est... il y a eu les guerres, nos grands-parents n'avaient peut-être pas ce besoin-là.
Moi, j'ai pas connu la guerre. Hein. Non, mais... Je sais pas. Voilà. La commune de Paris, oui, mais. Merci. Elle est gentille.
Nos grands-parents, ça ne vous parle pas.
Non, mais je
veux dire,
c'est vrai, on est quand même plus en plus protégés. On a donc. Enfin, après, évidemment, comme disait Mme Roubière, il y a toujours des dangers, des fous, des psychopathes, machin. Mais c'est peut-être tellement moins présent qu'on a plus tendance à écorcher des choses.
Moi je crois pas, parce que si vous prenez toute la palette des auteurs, il y a de tout. Chacun y va comme il peut et comme il en a envie. Mais il n'y a pas, je ne suis pas sûre qu'il y ait une. Alors après, il y a des choses qui marchent plus, il y a des modes, etc. Il y a des choses qui marchent plus que d'autres, etc. Mais bon, je n'ai pas le sentiment.
Sur le rapport homme-femme, je suis peut-être un peu d'accord. Sur la palette d'auteurs auxquels j'ai eu affaire, en fait, je constate que ceux qui. Affirment une position comme quoi ils n'écrivent pas pour la jeunesse alors qu'ils sont publiés pour la jeunesse.
Ah oui, ça c'est vrai.
C'est les hommes.
Oui, ça c'est vrai.
Alors que les femmes ont plus une conscience de si j'écris pour la jeunesse, ça implique
ça, je les ai entendu,
un certain nombre de choses. Ça c'est vrai.
Ça c'est
vrai. Voilà, les hommes qui écrivent pour la jeunesse disent non, moi j'écris pour tout public et je ne refuse de
prendre en compte. J'ai pas de censure
et Voilà. Oui, ça c'est vraiment assez systématique et effectivement c'est un peu lié tout simplement au fait de s'occuper plus ou moins des enfants et donc d'avoir à les rassurer après. ou pas, et je pense que c'est voilà, tout simplement un type de rapport qu'on entretient avec les enfants des rôles parentaux différenciés qui implique ce rapport à l'écriture différent aussi. J'ai l'impression. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, il y a un petit invité surprise.
Il y a de la manifestation, en tout cas.
Oui. Moi, j'en avais pas justement sur ce que Barbie disait sur le long. Enfin, on va me dire, c'est peut-être pas aux écrivains de fond, c'est peut-être à Lucie, en plus, je sais si la question est à côté, mais vu que le titre, c'était pourquoi les enfants, enfin, les parents racontent des choses aux enfants, parce qu'il y a le livre, moi, quand j'étais ado, c'était mes chairs de poule, on lisait la collection, l'antique, mes chairs de poule, tout ça. Mais je veux dire, je prenais le livre, je le refermais, je le lisais quand j'en avais besoin, quand j'en avais envie. Mais quand on parlait même de fœtus tout à l'heure, de choses quand on était enfant et petit, le rôle du parent dans l'apprentissage d'avoir peur, parce qu'on est passif en tant qu'enfant quand les parents racontent, on lit pas.
Les enfants réclament des histoires qui font peur.
Les parents, ils ont quand même un rôle important peut-être d'en parler après. Est-ce que les parents ont un rôle dans le fait d'apprendre aux enfants à avoir peur, ou est-ce qu'il faut laisser les enfants apprendre
à avoir peur, peut-être pas, mais apprendre à lire, oui.
Oui, ça c'est
apprendre à aimer lire.
Parce qu'ils réclament, ils réclament les histoires qui font peur.
Oui, c'est ça. Je pense qu'on n'apprend pas à être parent, malheureusement.
Ils ont peur, ils réclament.
Et donc on y va un petit peu au feeling. Et là, pour le coup, il y a des auteurs jeunesse qui ont fait des livres remarquables. adaptés vraiment aux enfants. Là, on a vraiment, il suffit d'aller voir les bibliothécaires et demander des conseils. Et il y a des livres qu'on peut raconter aux enfants. On n'est pas forcé de raconter.
Il y a beaucoup de livres sur les peurs, sur tel personnage a peur de telle chose, j'ai peur du noir. Alors, presque un petit peu trop.
Oui, non, mais ça, c'est les recettes. Ce que j'ai l'autre jour, la maman, elle sida, ouais. Pépé, c'est alcoolique, ma grand-tante fume des joints.
Voilà, on a des livres
sur les peurs. Non, là, maintenant, il y a des recettes pour tous les drames de la vie.
Toto a peur du noir.
Voilà, mais il y a des livres beaucoup plus intelligents que ça qui traitent la peur, je pense. Et tu connais Chantal, voilà, Maurice Sendak en état.
Bien sûr.
Avec le Max et les Maxi Monstres, voilà, le cauchemar dans mon placard. Bon, c'est ceux qui me reviennent là, mais il y en a d'autres qui sont très intelligents et qui, voilà, si on sent qu'on a des peurs. Après, et c'est drôle parce que je me souviens pas avoir raconté justement beaucoup d'histoires abominable à ma fille, c'est bizarre.
Moi non plus, j'en ai pas. Enfin, j'ai entendu des contes, mais moi, je suis une génération.
Je ne sais plus.
Alors, ça m'a pas traumatisé, non.
Là, c'est pas mes enfants, mais j'ai une amie qui a une petite fille qui réclame. Et alors donc on est en train de lui écrire une histoire où la sorcière mange vraiment les enfants. Parce que ça, on n'en trouve pas. En fait, on en a cherché, etc. On n'en trouve pas, on n'en trouve peut-être plus. Les sorcières menacent de manger les enfants. Elles les régurgitent à la fin, etc. Mais voilà, la gamine, elle a 6 ans et elle va voir le bibliothécaire en demandant ça. Elle a vraiment envie d'avoir peur.
Le chapeau rouge.
D'avoir plus peur que les histoires qu'on lui propose
ça la rassure.
Donc, il y a vraiment une demande. Des petits pour des choses assez effrayantes.
Quand j'ai vu la vraie version de la Belle au bois dormant, j'étais horrifiée.
À la fin, elle était effrayante. Avec le cuveau plein de serpents et de crapauds. D'ailleurs, beaucoup d'éditions coupent au moment où le prince embrasse la belle.
Parce qu'après, la belle-mère était épouvantable.
Alors que la suite était épouvantable. Dans la version originale,
en fait, elle se réveille parce qu'elle a touché je ne sais pas quoi de l'enfant. En fait, elle s'est fait violer pendant. C'est horrible.
C'est l'histoire de.
Donc effectivement des expériences d'épouvante liées au conte. Éventuellement une dernière petite question si vous voulez et puis. J'ai l'impression qu'arrivent déjà les prochains interlocuteurs.
Oui. Mais non, on va rester là, justement. Voilà, dommage.
On va leur faire peur, ils vont repartir.
On a une dernière question.
Dommage.
Une question d'une maman qui est déjà un peu âgée, qui n'a pas vécu avec ce phénomène, mais la génération aussi des jeux vidéo avec plusieurs vies, est-ce que ça change un peu le sens que les jeunes ont maintenant des comptes?
Victor.
Alors ça c'est plus Victor, c'est ta génération.
Ça veut pas dire, c'est pas ma génération.
Dis-nous des horreurs.
Je suis du siècle dernier.
Donc. Le fait de pouvoir ressusciter, c'est ça dans les jeux vidéo, d'avoir plusieurs chances en fait. Peut-être,
avec
peut-être.
Les jeux des enfants. Ouais. Qui jouent.
Je pense qu'il y a ça, puis il y a le fait qu'on est dans une. Alors c'est le grand mot, mais bon, on est quand même dans une société postmoderne. Effectivement, on a l'impression qu'on peut réinventer les choses, essayer plusieurs fois, c'est moins définitif, donc. Peut-être qu'effectivement, ça a influé là-dessus. Mais je ne suis pas formelle là non plus.
Mais c'est bien d'avoir plusieurs vies.
Plusieurs identités, plusieurs pouvoir se réinventer.
Ceci dit, forcément, on a moins peur de perdre sa vie si on en a plusieurs derrière quand on joue. Moi, ça m'est arrivé et c'est vrai que c'est... Ouais.
Ça fait partie de ce processus.
Pas intelligent ce que je viens de dire, c'est juste un ressentiment.
Donc je remercie beaucoup nos trois intervenants et le public pour sa participation. Au revoir.